CEO Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Marty et Sylvain Langelier, en partenariat avec Inextenso Finance.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux, notre compte X, CEO Radio-du-bas. TV à mes côtés, pour co-animer cette émission, Marc Sabaté, associé et directeur général d'Inextenso Finance. Bonjour Marc.
Bonjour Alain.
Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Christophe Chenu, président des alumni de Dauphine, dirigeant d'entreprise et auteur du livre Ingérable, comment manager vos talents en entreprise. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Alors, vous avez une maîtrise de gestion doublée d'un BA HEC. Un mot sur vos premières expériences professionnelles. Vous étiez dans la communication, c'est ça?
Oui, en fait, dans ces années-là, qui étaient un peu les années de Bernard Tapie et de son émission de télé, il fallait entreprendre. Enfin, c'était assez à la mode. Donc, juste à la fin de ces études qui me programmaient plutôt pour aller chez L'Oréal ou à la BNP, avec un associé que j'ai rencontré sur le campus, on a créé une agence de marketing direct. C'était à l'époque les mailings, le Minitel, pour ceux qui étaient nés, et qui a très bien marché assez rapidement et qu'on a vendu quelques années plus tard à un groupe qui s'appelle DDB. Donc, c'est 17 ans dans la com et dans la pub.
Bon, la com, la pub et puis le foot, vous adorez le foot. Hein. Vous avez eu des grandes fonctions bénévoles, on va le rappeler. Hein.
Président de club. Hein. Ça fait depuis 1996 et à l'exception des années où j'étais à l'équipe, où j'avais un conflit d'intérêt, que je dirige de près ou de loin un club de football professionnel. Alors, ça a été le Stade de Reims pendant 7 ans, dont j'ai été président, que j'ai repris, pour être très honnête, en club amateur en 5e division.
5e division.
Pour le faire remonter au niveau professionnel. Et après, ça a été Vianton-Gaillard, le Paris Saint-Germain, Rennes et aujourd'hui le LOSC Lille, dont je suis administrateur.
Ouais. Et ils vont la gagner un jour, cette Coupe d'Europe, le PSG, d'ici les 50 prochaines années, là, à votre avis ou pas?
Ça peut arriver. Ils font partie de ceux qui peuvent la gagner, mais il n'y en a qu'un chaque année et c'est quand même assez compliqué d'arriver jusqu'au bout et ça ne se fait pas en deux jours.
Bon, Christophe, vous avez une super carrière d'entrepreneur, de dirigeant également. Vous avez notamment dirigé Lacoste, une belle marque au rayonnement mondial.
Oui, absolument. C'est un excellent souvenir puisque Lacoste était en 120 pays. C'est une marque absolument extraordinaire parce que partout, elle est appréciée, adorée. Elle n'est pas du tout clivante, sympathique, sportive et à la mode en même temps. Et j'ai passé 5 années extraordinaires entre des défilés de mode, des tournois de tennis, de golf, évidemment quelques voyages professionnels à faire le tour du monde et à relancer cette très très jolie marque qui est aujourd'hui encore au sommet de sa forme.
Et alors, vous avez préféré quoi, votre expérience à l'opinion dans les médias ou alors diriger une agence de mannequins? Aucun.
Ça a été très court et à la fin, c'est pas mon meilleur souvenir. En fait, j'ai beaucoup aimé beaucoup de choses que j'ai faites, mais c'est beaucoup par rapport aux gens avec qui on le fait. Et c'est vrai que ça a été des aventures avec soit des associés comme Nicolas Bétou à l'Opinion, Xavier Romatet dans ma vie d'agence, ou avec des actionnaires comme la famille Amaury ou la famille Lacoste qui se sont extrêmement bien passés humainement. Donc c'est des excellents souvenirs, puis c'est des belles aventures. L'équipe, Lacoste, Lacom, c'est des univers plutôt sympas et marrants. Et
vous aimez les équipes, hein, vous avez l'esprit d'équipe. Hein.
Bah, je suis footballeur,
capitaine,
ouais.
Christophe,
même si
vrai.
Même si je pratique quelques sports individuels comme le vélo ou le tennis, je suis d'abord et avant tout un footballeur. J'aime bien les sports courts. Ouais.
Alors aujourd'hui, donc ce livre, hein, Ingérable, comment manager vos talents, c'est pas gagné la réponse. Hein.
Non, mais c'est un truc qui m'est venu sur la fin, là, au moment où j'arrivais justement chez Elite, où je me suis rendu compte que toute ma vie, j'avais dirigé des gens insupportables, mais que j'ai adoré diriger.
Et là, vous aviez le droit de le dire.
Non, mais des footballeurs, des créatifs de pub, des créateurs de mode, des journalistes, des mannequins à la fin. Donc des gens qui ont une grande notoriété, un grand talent, souvent un grand ego, et qui sont extrêmement importants pour les entreprises en question, et plus importants que le patron que j'étais pour eux. Et je raconte au travers d'anecdotes des succès, des échecs dans le management de ces gens-là. Je le fais plus en conférence où je peux plus me lâcher, à condition qu'il n'y ait pas de tweet, que dans un livre où sinon j'irai en prison. En tout cas,
allez-y à la radio, il n'y a pas de problème.
Voilà, personne n'écoute. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que quand on parle d'aventures qui arriveraient à Neymar, Mbappé ou Naomi Campbell, les gens qui soient directeurs informatiques ou chefs d'un service dans une entreprise se disent « mais j'ai quelqu'un qui est un peu comme ça dans mon service ». Et ça m'intéresse de savoir... en fait, on utilise l'exemple de la star, dans une conférence par exemple, pour faire émerger des problématiques que tout le monde a dans le management, et notamment le management des jeunes générations aujourd'hui, et dans lesquelles il y a, au travers des anecdotes, des petits moyens de comprendre ce qui marche, ce qui marche pas. Alors, tout ne marche pas de la même façon avec les uns avec les autres, mais c'est des petits tips qui permettent de mieux s'adapter à ce genre de situation.
En tant qu'expert, vous portez quel regard sur le management façon Didier Deschamps ?
Lui, c'est le meilleur manager du monde du football en France et peut-être même au niveau international. Il était déjà manager sur le terrain quand il était joueur. Il a été excellent manager en tant qu'entraîneur et il l'est comme sélectionneur. C'est très différent parce que sélectionneur, l'avantage, c'est qu'on, comme son nom l'indique, il sélectionne à chaque match les gens qu'il a envie d'avoir. Quand on est entraîneur, on a un effectif pendant toute l'année, il faut faire avec. Mais dans tous les cas de figure, il a toujours gagné et il a toujours su gérer justement les égos, les talents et équilibrer tout ça.
Aujourd'hui, vous êtes également investisseur, donc vous avez mis des sous dans quel type de société? Alors la recette, comment fait-on pour investir sans se tromper, Christophe?
Alors, on me demande surtout pas à moi, parce que moi je me fais comme tout le monde, je me trompe parfois et je réussis parfois. Moi, je n'investis que dans des univers où d'abord avec des gens, parce qu'une fois de plus,
d'abord des
gens, une histoire avec des gens avec qui on a envie de faire quelque chose, et je n'investis que dans des univers où je pense que je peux apporter quelque chose au travers de mon expérience. Donc c'est souvent dans le sport, dans la com. Parfois je m'égare dans d'autres secteurs comme les croquettes pour chiens et chats vendues en pharmacie.
C'est bien ça.
Voilà. Mais quelle marque
alors, dis-nous la marque.
Ah bah si on peut dire la marque, elle s'appelle Lapsa. Elle est vendue, c'est le leader des croquettes pour chiens et chats en pharmacie.
Elles sont bio, je suppose, à ce prix-là, non?
Elles sont pas particulièrement bio, mais elles sont en tout cas
bonnes,
voilà, et appréciées, et bonnes pour la santé des animaux. Mais sinon, effectivement, c'est d'abord des personnes avec qui j'ai envie de m'associer et des personnes à qui je pense que je peux apporter des contacts, des idées et participer à la vie de l'entreprise. Ce qui m'amuse, c'est mon tempérament d'entrepreneur reprend le dessus. Et je suis un investisseur entrepreneur, donc j'accompagne aussi bien la marque Inès de la Fressange que des centres de football à 5 aux États-Unis, des urbanes qui s'appellent Soccer Roof aux États-Unis, et donc parfois des croquettes pour chiens et chats. Ouais.
Marc, vous préférez quoi, les croquettes ou le foot à 5?
Ah non, je préfère le foot, et puis à 5 ou à 11, mais en tout cas, je peux pas m'empêcher de penser à Auguste Delaune et au coup de froid qu'on prenait quand on allait dans le stade à l'époque des Bianchi, des Santa Maria. Moi, j'ai connu ce stade de Reims-là. C'était
moi aussi.
Un peu avant. C'était au moment où vous êtes arrivé, je crois. Un peu, ou peut-être.
Non, je suis arrivé bien après, mais je l'ai connu quand j'étais enfant.
Voilà. Ça, c'est pas terrible.
Quel regard vous portez sur le business du foot aujourd'hui, avec tous ces clubs qui s'achètent, qui se vendent, qui valent des millions?
Voilà, exactement. Il me faut 3 heures. D'abord, le regard que je porte sur le football en général, c'est que je trouve que c'est un miroir grossissant de la société, aussi bien de ses défauts que de ses qualités. Donc je trouve que c'est absolument passionnant, parce que tout ce qui se passe dans la société se passe dans le foot, sauf que dans le foot on en parle 100 000 fois plus, parce qu'il y a des heures de radio, de télé et des pages de journaux à remplir tous les jours, et tout petit événement dans le foot devient un macro événement. Mais quand on y regarde de près, c'est toutes les mêmes déviances ou toutes les mêmes bonnes choses qui se passent dans la société et qui sont dans cette espèce de creuset hyper médiatisé et dont on peut tirer, d'un point de vue social et sociétal, énormément d'enseignements. Donc c'est ça qui me passionne, moi, au-delà du jeu du 4-4-2 ou du 4-3-3.
C'est ethnologue aussi, hein.
Voilà. Après ça, sur la partie économique, le football génère beaucoup d'argent. Donc théoriquement, c'est un secteur économique où on doit pouvoir gagner de l'argent. Il y en a qui y arrivent, et j'ai la prétention de faire partie de ceux qui sont toujours arrivé dans les clubs où je suis passé, il n'y a pas eu de problème financier. Et j'ai été 2 fois actionnaire, et j'ai pu revendre avec plus-value ces actionnariats. Donc, il n'y a pas de fatalité à perdre de l'argent dans le football. Il y a une pression très forte du public, des médias, qui vous incite parfois à surinvestir par rapport à ce que vous devriez. Et après, je pense qu'il y a aujourd'hui, alors, il y a des objectifs parmi les différents propriétaires de clubs qui ne sont pas toujours l'équilibre économique. Vous pensez bien que le Qatar ou l'Arabie Saoudite, leur problématique, c'est pas l'équilibre économique, c'est la notoriété de leur pays ou l'image de leur pays dans le monde entier. Et ils ont parfaitement réussi, en investissant beaucoup d'argent à notre échelle, mais pas tant que ça à la leur, à faire que le Qatar aujourd'hui soit un pays que le monde entier connaît par le Paris Saint-Germain.
Donc il n'y a pas d'héroïne normale, quoi.
Il n'y a pas d'héroïne. Après, les investisseurs américains, c'est un peu différent, parce que eux, ils sont très nombreux à investir en Europe. Alors ils viennent parce qu'ils se disent, 1, c'est pas cher, c'est vrai. 2, il y a du trading de joueurs, on doit pouvoir gagner de l'argent, c'est vrai. Sauf qu'ils n'ont pas encore, pour la plupart d'entre eux, bien compris comment le sport européen fonctionnait de façon très différente du sport de franchise américain, qui est assez communiste dans son fonctionnement, alors que nous, on est assez libéraux dans le fonctionnement. C'est le monde à l'envers, au niveau du sport européen versus le sport américain.
Est-ce que le modèle foot business que vous évoquez est réplicable ou duplicable sur le football féminin aujourd'hui?
Alors, à mon avis, à ce stade, pas du tout, parce que théoriquement oui, mais il va falloir quand même beaucoup de temps, parce que il faut le temps que le football féminin recrute beaucoup de jeunes joueuses qui deviennent d'un bon niveau, qui permettent d'avoir un certain nombre de clubs ou d'équipes nationales d'un niveau cohérent. Parce que le problème, c'est que vous avez aujourd'hui trop peu, la base est trop étroite pour générer une élite large. Et donc, même en championnat de France, vous avez 2 équipes qui gagnent 8-0 tous les week-ends. Enfin, je caricature.
Oui,
et les championnats internationaux, il y a quelques pays qui surdominent. L'intérêt du football, particulièrement en tant que sport, c'est la glorieuse incertitude du sport. Et pour ça, il faut que tous les pays ou toutes les équipes aient un minimum de chances de pouvoir concourir. C'est le seul sport où il y a une Coupe de France, parce que le petit de 5e division peut gagner contre le gros. Mais dans le foot féminin, il faut encore du temps pour qu'il y ait une base qui s'élargisse, plus de pratiquantes et qu'on arrive à cela. Mais il y aura un modèle de foot féminin, c'est certain. Il existe déjà aux États-Unis, il existera en Europe.
Je vais rester dans l'ingérable, puisque c'est un peu votre thème aujourd'hui, mais également dans le marketing, en tout cas dans les marques, puisque vous avez été homme de marketing et homme de marque, en dirigeant Lacoste, Inès de la Fraissange, dans lequel vous êtes actionnaire aujourd'hui. Comment vous analysez ce monde un peu bipolaire avec des marques qui explosent, qui fonctionnent très bien, et d'autres qui se cassent la figure, et des anciennes qui disparaissent parce que les magasins sont plus au rendez-vous et qu'on a cette fragmentation des marques qui est importante?
Donc, pour moi, il y a deux phénomènes. Le premier, c'est qu'il y a eu depuis 10-15 ans une explosion du nombre de marques qui ont été reprises, relancées, ainsi de suite, et qu'à un moment, il y a un trop-plein. C'est une première chose, et forcément il y a une sélection naturelle qui s'opère et qui s'opérera entre celles qui passeront le cut et celles qui ne le passeront pas. Après, il y a clairement une segmentation aujourd'hui en trois étages, le luxe et le haut luxe qui cartonnent parce qu'il y a de plus en plus de gens fortunés dans le monde. L'entrée de gamme, tout ce qui est, on va dire, Uniqlo, H&M, Zara et ainsi de suite, qui cartonne aussi parce qu'il y a de plus en plus de gens qui accèdent à un niveau de vie où ils veulent s'habiller de façon correcte, mais sans non plus dépenser trop d'argent,
et que le volume quand même. Hein.
Et il y a cet échelon du milieu qu'on appelle l'affordable luxury, le luxe accessible ou autre, où il y a énormément de marques et qui a un peu de mal à se positionner sur ces deux segments. Là-dedans, il y a des grands acteurs qui s'en sortent et d'autres qui n'ont pas atteint la taille critique et qui, dans cette période d'inflation où les gens font attention, d'écologie ultra présente où les gens font aussi attention à est-ce que ce que j'achète est écologiquement responsable ou autre, se retrouvent dans une difficulté à investir suffisamment pour atteindre la taille critique qui que quoi. Et c'est dans cet univers de marque qu'on retrouve aujourd'hui les gens qui souffrent.
Et enfin, je vais revenir là aussi à Ingérable, mais au livre que vous avez produit et écrit. Comment vous donnez envie à un jeune manager, devenir manager dans ce contexte de génération effectivement un peu ingérable dans l'entreprise?
Moi, une fois de plus, comme je vous l'ai dit, avec un peu un clin d'œil, j'ai dirigé des gens insupportables, mais j'ai adoré diriger des gens insupportables. Il n'y a rien de plus passionnant que de diriger des talents.
Est-ce que vous êtes insupportable?
Bien sûr, forcément. mais au-delà de ça, ces gens-là sont souvent beaucoup plus intéressants, beaucoup plus passionnants, parce qu'ils ont une richesse, alors parfois un talent, une richesse qui mérite vraiment qu'on y passe du temps. Moi, mon propos sur le management en général, et notamment le management intermédiaire des entreprises, c'est que manager, c'est un boulot à plein temps. Et peu de gens et peu d'entreprises le considèrent comme tel. On considère que manager, c'est un truc en plus par rapport à faire son boulot normal. Or, un manager qui fait vraiment son boulot de manager sera mille fois plus efficace en faisant bosser les 10 personnes de son service très très bien que s'il est un parmi 10 qui manage mal et que son service fonctionne pas bien. Donc, c'est un boulot à plein temps où il faut aimer, écouter, s'intéresser aux gens, et c'est quand même assez sympa aussi, trouver des solutions individuelles sans dénaturer le collectif. Et c'est pour ça qu'investir de foot, c'est exceptionnel. Il y a 25 stars, ils se prennent tous pour le meilleur joueur du monde dans le vestiaire, il n'y en a que 11 qui jouent, éventuellement 16. Et il faut maintenir tout le monde sous pression toute la saison pour arriver à ce que collectivement, ils aient envie de jouer ensemble. Ça, c'est un travail, je trouve, intellectuellement absolument passionnant. Mais pour ça, il faut, un, y passer son temps à plein temps, entre guillemets, et deux, ne pas vouloir faire le job à la place des gens. Et très souvent, on nomme le meilleur du service patron du service, et c'est une double erreur, parce qu'on perd le meilleur et on gagne pas le meilleur manager qui a tendance à faire le boulot à la place des autres.
Christophe, pour terminer, vous êtes président des anciens, les alumni de Dauphine. Alors, c'est une association dynamique, là? Il y a combien d'anciens aujourd'hui encore vivants et en pleine forme comme vous?
Alors, il y a 105 000 diplômés, plus une dizaine de milliers d'étudiants actuellement qui font partie des éligibles aux alumni de Dauphine. Malheureusement, nous n'avons que 40-45 000 adresses mail à jour. Donc, j'en profite pour lancer un appel voilà, à ceux qui nous écouteraient, qui sont alumni et dont l'adresse mail n'est pas à jour. Donc, le premier combat, c'est d'essayer de récupérer le maximum de ces adresses-là. On part de très, très loin. Ouais. Ça, c'est la première chose. Et après ça, c'est l'association potentiellement la plus puissante de France, puisqu'entre la qualité des gens qui en sortent et la quantité qui est largement supérieure à celle des grandes écoles qui n'ont pas les mêmes bataillons, on a une puissance de feu qui est théoriquement à la condition d'avoir les adresses mail et ainsi de suite.
Ça va arriver.
Et on fait plein de choses, évidemment tout ce qu'un réseau d'anciens propose pour tout, la gestion de carrière, réseau et connexion entre les gens, la remise des prix des Dauphinois de l'année, le journal, on a plein d'activités, c'est absolument passionnant. Et Dauphine a une caractéristique, c'est la diversité des formations et des gens qui en sortent. On a aussi bien des grands écrivains que des sportifs, que des patrons de CAC 40 et évidemment beaucoup d'entrepreneurs. Donc, ça permet une immense diversité de contacts et c'est assez passionnant.
Merci beaucoup Christophe. Je rappelle le titre de votre livre d'édition Bréal, Ingérable, comment manager vos talents en entreprise. Merci également à vous Marc. Fin de ce numéro de CEO Radio. Retrouvez toutes les actualités sur les comptes X et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
L'invité de la semaine de CEO Radio, une production B2B Radio en partenariat avec Inextenso Finance.